Après avoir envoyé le titre de mon exposé, j'ai dû le changer. Après, notez tout simplement que je vais vous parler de l'Afrique face au défi de la capitalisation de l'humain dans un monde globalisé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grands grades et qualités, à cette tribune à laquelle m'a invité le professeur Dominique Kéroïdan, j'en profite pour la remercier, je voudrais vous parler d'un lieu. Et ce lieu, c'est l'Afrique subsaharienne. Et c'est de ce lieu que je voudrais comprendre la mondialisation et les défis qu'elle impose aux politiques de santé, des sociétés et des États fragiles comme ceux de cette partie du monde, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Nous mettrons particulièrement l'accent sur les perversions liées aux manières dont la mondialisation enveloppe. Ce n'est pas une expression utilisée, c'est une expression utilisée à dessein, donc enveloppe cette partie du continent et les risques sanitaires consubstantiels aux modalités de son intégration. Et partant de cela, nous montrerons comment et combien le champ de la santé est un excellent analyseur, justement, de la guerre des intérêts commerciaux qu'organise, justement, cette mondialisation. Nous montrerons comment la mondialisation complexifie les problèmes de santé publique dans des États qui, déjà, éprouvent beaucoup de difficultés à protéger leur population. Mais en même temps, comment cette mondialisation révèle l'urgence pour les sociétés dominées d'internaliser ce que j'appelle la philosophie politique de capitalisation de l'humain comme étant la première ressource que l'on investit dans la bataille pour espérer exister dans un monde de compétitivité mal encadré, mais un monde dans lequel les plus forts savent tirer profit de l'ignorance et de l'impuissance des plus faibles. Et c'est cela, justement, qui justifie l'idée de capitalisation de l'humain qui va revenir constamment dans mon exposé. Alors, nous venons d'écouter cette interpellation philosophique du professeur Mouelé, mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'aborder la mondialisation en sociologue. En sociologue, pourquoi ? Parce que la sociologie a ceci de spécifique, qu'elle regarde la réalité en marche. Alors, pour moi, la mondialisation n'est pas seulement une mise en parenthèse des frontières afin que s'intensifie le flux des marchandises, des idées, de l'information de toute nature. Elle est avant tout et surtout une compétition des mondes dans la création et pour le contrôle des savoirs, des savoir-faire et donc des pouvoirs qui déterminent l'étendue du droit à la parole dont dispose chaque nation dans une arène internationale en pleine recomposition. Je dis bien le droit à la parole. De fait, la mondialisation remet en cause l'ancien prisme bipolaire, nord riche et sud pauvre, sous lequel les affaires du monde ont été pensées jusqu'à une date récente. Désormais, les pôles qui comptent se diversifient, puisque se diversifient également les lieux de création des savoirs et des savoir-faire. Mais en même temps que se multipolarisent les lieux de pouvoir économique, la pauvreté se planétarise et se dépolarise également. Il y a des poches de pauvreté chez les riches maintenant, comme il y a également des poches de richesse chez les pauvres. Puisque, avec la mondialisation, l'on assiste à une véritable redistribution des cartes. Car, malgré les critiques qui lui sont faites, elle ouvre le champ du possible et laisse des fenêtres d'opportunité pour ceux, j'entends les États, les groupes particuliers ou encore des individus, qui savent se donner les moyens de les capter. La mondialisation offre donc des opportunités, mais elle impose aussi la gestion de nouvelles contraintes à tous, et particulièrement aux pays pauvres. nous ne partageons pas complètement l'enthousiasme du dernier rapport du PNUD sur le développement, un rapport qui met l'accent sur les défis et les opportunités sans précédent pour le progrès humain qu'est en train de faire naître la mutation de l'économie mondiale. Une économie mondiale qui, comme le souligne ce rapport, à laquelle participe un certain Sud qui y prend aussi son essor. Mais ce rapport a passé sous silence la violence. Là, on l'a entendu dans l'exposé de M. Basselequin. Donc, toute la violence à peine voilée de la compétition sans éthique qu'organise sous nos yeux la mondialisation en situation de dérégulation des mécanismes institutionnels internationaux dédiés à l'arbitrage justement des rapports de force. L'envers de la médaille est que, dans la foulée de la libéralisation des économies et des marchés, non seulement les nations et les civilisations perdent le contrôle de leur destinée, elles s'exposent également et davantage à des risques et à des incertitudes inédites, justement en situation de dérégulation. Et c'est là, et c'est justement dans la gestion de ces risques et incertitudes que se loge l'une des faces cachées de la compétition exacerbée qu'ordonne la mondialisation. Et la grande rhétorique sur la solidarité ne peut cacher cela. En fait, il s'agit des capacités inégales, totalement inégales, des nations et des civilisations à faire face à ce que Ulrich Beck appelle la société du risque. Pour chaque nation, la guerre de positionnement qu'impose l'arène de la mondialisation suppose la disponibilité de ressources humaines de qualité. De qualité parce que capable de capter les opportunités dans un monde qui change, parce que capable de produire les savoirs et savoir-faire adaptés aux enjeux d'un monde mutant, capable de créer les objets matériels et immatériels, les biens et les services qui répondent aux nouveaux besoins émergents et qui, par la même occasion, fondent richesse et puissance, et par ricochet, la possibilité de compter dans l'histoire et dans les arènes de décision. Suivez mon regard. Des ressources humaines de qualité aussi parce que capables de faire des choix sociétaux optimaux qui ne sont jamais à incertitude zéro. De formuler des politiques publiques qui aient du sens, d'anticiper les risques et d'assurer la veille nécessaire. D'autant que l'efficience de la résilience de chacune des nations et des civilisations dépend de la réflexivité mais aussi de la proactivité qu'impose un environnement international toujours instable et à risque croissant. Dans un tel environnement international en pleine mutation et dans cette guerre de positionnement qui le structure, la disponibilité du capital humain devient donc un facteur différentiel, je dirais un facteur discriminant. La force ou la faiblesse des nations ou des civilisations est aussi mesurable à l'aune du stock de capital humain qu'elles investissent dans la bataille globale. La pensée économique a bien capté cette mutation discrète. Alors, par rapport à la théorie des avantages comparatifs, la force désormais structurante de la théorie des avantages concurrentiels, qui justement insiste sur l'importance des stocks de ressources et de compétences, et le regain d'intérêt en théorie du développement pour les politiques publiques fondées sur la capacité d'Amartya Sen ou de Martha Nussbaum, démontrent l'intérêt et les enjeux vitaux pour une société donnée de savoir transformer ses femmes et ses hommes en capital humain. En essayant de dégager les dernières tendances du développement, l'édition du 20e anniversaire du rapport du développement humain a fortement mis l'accent sur le bénéfice du développement humain et ses incidences sur le progrès différentiel des sociétés. Regardant le passé et envisageant justement l'avenir, ce rapport fait observer, premièrement, le progrès enregistré dans le monde, particulièrement dans le domaine de la santé. Deuxièmement, la variabilité de ces progrès entre les pays et dans le temps. Mais aussi et surtout, et c'est le troisième point, et c'est ce qui me paraît le plus important, le gouffre énorme qui sépare les pays développés et les pays en voie de développement. Mais, si investir dans les femmes et les hommes pour leur garantir une meilleure santé, une espérance de vie plus longue et féconde, et mieux les éduquer devient à la fois un enjeu politique de bon sens, la dimension géopolitique du capital humain, elle, apparaît moins évidente. Et c'est en cela que réside la dimension cachée du capital humain. Le capital humain envisagé comme arme géopolitique discrète et certes un produit de l'histoire, de la modernité en Occident, mais un produit qui s'est construit au fur et à mesure que la logique des intérêts a structuré les relations entre les nations. Cependant, la conscience de la valeur géopolitique du capital humain n'est plus aujourd'hui l'apanage de l'Occident seul. Elle est de plus en plus internalisée par d'autres civilisations, notamment les pays émergents. Je pense à l'Indonésie, à des pays comme l'Inde, la Chine. Et malgré les différences culturelles, la nécessité d'internalisation de cette fonction de capitalisation utilitaire de l'humain semble avoir été bien comprise et traduite en politique publique suivant des modalités variables pouvant faire l'objet de lectures critiques. Mais ça a l'avantage d'exister. Puisque, globalement, l'idée a fonctionné comme un emprunt des leviers cachés de la modernité, sans le socle philosophique de la sacralisation de l'humain, dont le processus historique a été admirablement analysé par le philosophe Luc Ferry dans l'Orbe Dieu ou le sens de la vie. Alors, dans ces pays dits émergents, les politiques de santé et d'éducation, malgré leurs imperfections, sont devenues ce que j'appelle le cœur même de l'être dans le monde globalisé. Les effets de l'internalisation de cette politique, de cette philosophie politique de capitalisation utilitaire de l'humain, sont à la base justement de leur essor et de la modification des rapports de force qui rendent ces pays de plus en plus visibles. Par conséquent, ces politiques font d'eux des puissances qui comptent désormais dans l'arène géopolitique. Comparativement à ce Sud en plein essor, il y a un autre Sud dont fait partie l'Afrique, excepté l'Afrique du Sud, un autre Sud que j'appelle le Sud en promesse d'émergence. Alors, que se passe-t-il dans ces pays en promesse d'émergence? Je vais parler particulièrement d'Afrique. Alors, les démographes nous apprennent que l'Afrique subsaharienne est la partie du monde qui enregistre la plus forte croissance démographique. Elle compte le plus de jeunes et la moitié de sa population a moins de 25 ans. Quel formidable atout! Mais ce qui aurait pu être un atout considérable devient une source d'inquiétude, puisque les démographes s'interrogent sur les capacités de cette partie du monde à faire face aux besoins d'éducation et de santé qu'induit une telle dynamique de croissance. En clair, ils s'interrogent justement sur les capacités réelles à mettre en place des politiques publiques capables de transformer les hommes et les femmes en capital humain, donc en atout dans cette bataille. Vu donc sous l'angle de la philosophie politique utilitaire de capitalisation de l'humain, l'Afrique présente des limites dont sont révélateurs non seulement la faiblesse de son apport dans les échanges internationaux, production de savoir, de biens et services sociaux, économiques et culturels, mais aussi les difficultés structurelles à faire face aux contraintes de sa propre transformation. Difficultés dont les faiblesses des politiques de santé constituent un bon indicateur. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Elles vont de la définition des politiques pertinentes de santé à leur implémentation. Des politiques publiques dont on dit souvent manquer de volonté politique au sommet de l'État. Des politiques publiques souvent tributaires de ressources extérieures et organisées autour de stratégies d'offre de soins mal adaptées à l'évolution de la demande sociale d'usagers eux-mêmes en situation de privation de ressources socio-économiques ou de ressources insuffisantes, limitant de fait l'accès aux soins de santé. Aussi, ces politiques sont-elles souvent confrontées aux problèmes structurels de répartition des ressources humaines lorsqu'elles ne sont pas déficitaires. elles promettent des régimes d'assurance médicale universelle qui ont du mal à se mettre en place. La plupart du temps, les efforts financiers, généralement entre 5 % et 11 % par rapport aux 15 % promis à Abuja, sont difficilement consentis et immédiatement leurs effets sont annihilés par la mauvaise gestion, et par la corruption et l'absence de responsabilité dans l'exécution des tâches. L'absence d'évaluation de ces politiques publiques, on en a parlé, mécanisme d'évaluation déjà peu fiable, vient consolider le grand écart entre les grandes déclarations politiques et les réalités que l'on observe sur le terrain. Les déclarations sur la gratuité des soins, presque jamais appliquées sur le terrain, en sont un exemple. Alors, m'étendre sur cette difficulté, déjà bien connue, n'apporte rien de nouveau à nos échanges de ce matin sur les enjeux géopolitiques de la santé. Sauf que ces faiblesses structurelles et persistantes ont fini par décourager l'élan de solidarité internationale, faisant de la santé un objet de tension entre cette même communauté dite internationale et l'Afrique. Ceci eut comme conséquence, première, la réduction de l'aide internationale en faveur du secteur de la santé, et justement la crise financière dans laquelle se trouve le monde, particulièrement l'Europe, n'arrange pas les choses. D'où l'émergence, sous la pression des institutions de Bretton Woods, de l'idée naissante de responsabilité partagée en faveur de l'amélioration de la gouvernance des politiques de santé. Comme pour rappeler aux leaders africains la nécessité politique de promouvoir un autre rapport à la santé. Mais à cette difficulté structurelle déjà peu favorable à une véritable promotion de politique de capitalisation de l'humain, viennent se rajouter la nouvelle donne de risques sanitaires, mais cette nouvelle donne est plutôt pernicieuse parce qu'elle est en lien avec les secteurs par lesquels l'Afrique subsaharienne se connecte au monde. Je veux parler de l'industrie du médicament, des industries extractives et de l'agrobusiness. Derrière le rideau du développement de ces secteurs, il y a d'importants enjeux, mais également d'importants risques sanitaires. Mais pour l'instant, leur influence négative sur la santé des populations reste encore mal évaluée. Alors, comment cette prospérité de l'industrie des faux médicaments, par exemple, cache, par exemple, des risques? Alors, j'entrerai dans cette problématique en disant tout simplement que, en fait, l'Afrique n'a pas vraiment choisi la mondialisation. Elle l'a subie. Parce qu'elle n'a pas les moyens de suivre la vitesse de l'évolution du monde. Elle n'arrive pas à mettre à disposition des ressources humaines capables de penser cette évolution, alors que les capacités du capital à se fructifier en tirant le meilleur de tous les mondes et en externalisant au maximum les effets négatifs vont très, très, très rapidement. Mais maximiser le potentiel du monde, je veux dire, le potentiel naturel et humain du monde. Alors, l'Afrique n'arrive pas à suivre cette dynamique. Aux difficultés à autogérer sa propre transformation, donc viennent se rajouter les difficultés de gestion des risques et incertitudes liées à son environnement, à son enveloppement, dans une dynamique de mondialisation dont les États n'ont pas les moyens de gestion du débordement. Là réside donc la dimension cachée des risques liés à la manière dont l'Afrique est entrée dans cette arène de la mondialisation. Une entrée, comme je l'ai dit, plutôt subie que choisie. Comment est-ce qu'elle subit cet enveloppement dans la mondialisation? Le changement des rapports de force et l'âpreté de la lutte de positionnement se révèlent notamment à travers le développement des marchés de faux médicaments par lesquels nous voulons illustrer nos propos. Les débats suscités par cette problématique des faux médicaments dénotent plus que jamais les enjeux géopolitiques des médicaments en tant que composante essentielle des politiques de santé. Ces débats lèvent un coin du voile sur la violence des rapports de force dont je parlais tantôt entre les nations et les civilisations et par ricochet renvoie à cette face cachée de la mondialisation. Selon la définition qu'en donne l'OMS, les faux médicaments sont des médicaments délibérément et frauduleusement étiquetés pour tromper sur leur identité ou sur leurs origines. L'OMS note que l'on trouve dans les médicaments faux ou contrefaits des produits avec des principes actifs corrects, parfois des principes actifs erronés, sans principe actif par moment, ou avec des doses trop faibles ou trop fortes, ou sous des conditionnements falsifiés. Le recours à ces médicaments serait à la base de beaucoup d'échecs thérapeutiques, avec même de la perte de vie humaine. Comme certains pays d'Amérique latine et d'Asie, les pays africains sont également des destinations privilégiées de ces produits médicamenteux contrefaits. Ces médicaments proviendraient des pays asiatiques et à travers l'expansion du marché de faux médicaments, l'on perçoit bien un autre signe de fragilité des États, à savoir l'incapacité à se donner un système de réglementation pharmaceutique et à en assurer le contrôle de l'application. Faiblesse devenant de fait une opportunité économique dans un monde de compétition sans balise éthique. Ces médicaments impropres à la consommation ont été au cœur de la guerre que se livrent les médias européens, tels que The Guardian, et les agences de presse officielles chinoises depuis décembre 2012. En fait, des presses qui figurent les représentations du monde, d'un côté l'Europe et de l'autre la Chine. En décembre 2012, The Guardian publie dans ses lignes qu'en Ouganda et en Tanzanie, un tiers des médicaments contre le paludisme seraient contrefaits ou de qualité insuffisante. Fin de citation. Mais en le disant, il confesse le manque de données pour soutenir ses allégations. Il situe en Chine l'origine de cette contrefaçon et pointe du doigt le silence stratégique des autorités chinoises sur les échanges économiques immoraux autour des médicaments. Slate, le site d'information, rapporte également qu'en mars 2012, à la lisière du monde des médicaments et des produits de beauté, qu'une enquête du même quotidien, The Guardian, indiquait qu'une société cosmétique chinoise utilisait les fœtus avortés et la peau des cadavres de condamnés à mort pour fabriquer des crèmes à base de collagène. La réplique ne s'est pas faite attendre. Dès janvier 2013, la plus importante agence de presse chinoise, Xinhua, je n'arrive pas à prononcer ce mot, contre-attaque et dénonce ce qu'elle appelle des reportages à sensation réalisés par certains médias occidentaux visant à imputer à la Chine et aux autorités chinoises la vente de faux médicaments en Afrique. Mais cette même agence se dépêche d'expliquer plutôt que ce seraient des hommes d'affaires africains qui auraient fabriqué et vendu de faux antipaludéens au nom de la Chine. Rendant compte donc de cette guerre médiatique, Slate pose des questions, je dirais de bonnes questions, pour parler comme en France, de bonnes questions, des questions intéressantes, sur ce qu'il appelle la cabale, je le cite, la cabale en forme de cri au péril jaune. Interrogation que nous partageons évidemment, et je vais vous dire ce que c'est. Les médias occidentaux en ligne de front sur la dénonciation de la Chine ne porteraient-ils pas discrètement les intérêts du lobby des laboratoires pharmaceutiques européens ? Ne sont-ce pas des reportages bâtis sur, je le cite, le malaise de l'Occident face à la percée économique de la Chine en Afrique et aux relations dites privilégiées qu'elle entretient avec les pays africains ? Fin de citation. Il est pour l'instant difficile de démêler cet écheveau. Cependant, deux leçons nous paraissent importantes à retenir de cette guerre médiatique qui cache à peine les guerres économiques entre des mondes médias interposés. La première, c'est d'abord l'existence et le développement d'un marché de faux médicaments venus des pays émergents, favorisée par la porosité des frontières, mais aussi par la faiblesse des systèmes de réglementation pharmaceutique et du contrôle de son application. Évidemment, par le jeu de la corruption des administrations, les fraudeurs profitent des complicités internes. Alors, question, est-ce qu'un impérialisme peut être plus généreux qu'un autre ? Je vous laisse réfléchir. La deuxième leçon, c'est que l'on constate que l'Afrique ne sait pas comment profiter d'un monde qui change, mais le monde qui change sait visiblement profiter d'elle et de ses faiblesses. La même dynamique s'observe avec le développement des industries extractives, secteur qui contribue à tirer les chiffres de la croissance vers le haut et créer l'appétence économique en Afrique, sans que l'on ne se préoccupe pour l'heure des effets pervers de son développement, ne serait-ce que sur l'environnement et sur la santé des travailleurs. Alors, en quoi ces sources de croissance économique sont-elles porteuses de hauts risques sanitaires ? Évidemment, en jugé par les indicateurs de croissance économique, nombre de pays africains offrent des signes d'entrée dans la dynamique de la mondialisation. On dit, à partir de ces indicateurs de croissance, que l'Afrique, je cite, serait en voie de devenir un pôle de croissance mondiale. Enfin, j'y crois, j'ai mis quelques réserves sur cette idée. Mais ce qui est faiblement souligné, c'est que cette croissance n'est que très faiblement portée par la valeur travail. Elle est plutôt alimentée par la découverte et l'exploitation de nouveaux minerais stratégiques, de réserves de pétrole et de gaz naturel, et ce, sur la base d'une redistribution inégalitaire des ressources tirées de ces exploitations. Le PNUD annonçait pompeusement que les perspectives économiques du continent pour 2013-2014 sont prometteuses et qu'en 2013, l'économie de l'Afrique devrait croître de 4,8%, puis de 5,3% en 2014 en moyenne. Ils voient les ressources naturelles comme étant la clé de la transformation économique de l'Afrique. Et je cite là le PNUD. Dans un tel environnement fait de forts taux de chômage, où la croissance provient de l'industrie extractive qui n'offre que très peu d'emplois, contribuant de ce fait très faiblement à la redistribution du revenu, l'impact de telle croissance sur le développement ne peut se révéler qu'insignifiant. Mais là n'est pas le plus pernicieux. Le moins visible est ceci. Non seulement ces politiques de croissance basées sur les industries extractives ne contribuent pas à réduire la pauvreté de façon consubstantielle en raison des inégalités sociales liées à l'accès à l'emploi et aux flux illicites de capitaux, l'aspect qui fait justement l'objet de plus de dénonciations, et il en sera question d'ailleurs aujourd'hui au sommet des G8 en Australie, elle crée également les conditions de l'appauvrissement, de l'approfondissement de la pauvreté par les risques sanitaires qu'elle induit en termes de perte de capital de santé. Alors, le capital de santé des travailleurs, je veux dire. Parce que les réglementations du travail dans les différents États, volontairement ou involontairement, ne suivent pas l'expansion rapide de ces secteurs. Et par conséquent, les travailleurs ne sont pas protégés ou sont plutôt faiblement protégés. De façon générale, la santé et la sécurité des travailleurs importent géopolitiquement moins que la mobilisation et la transparence dans la gestion des ressources, mais des ressources générées au prix de la santé des travailleurs. Par rapport aux compagnies minières, par exemple, des initiatives de réforme existent ou sont en cours de révision et sont en train d'être mises en place. Et il y a énormément de contrats qui sont en cours de révision, je pense notamment à la Tanzanie, où ce processus est en cours. Des instruments de régulation pour améliorer la transparence des accords commerciaux et des transactions financières sont mis en place. Mais les initiatives visant à améliorer le dispositif réglementaire en matière de santé et de la sécurité au travail sont plutôt rares. La réglementation sur ce plan évolue moins vite que ne se développent les industries extractives, l'agrobusiness, et je rajouterai le BTP. Et finalement, le Code du travail reste peu protecteur des travailleurs. L'Afrique subsaharienne aura donc à faire face à un nouveau phénomène. Et quel est ce nouveau phénomène ? C'est la naissance d'une race de travailleurs pauvres, rendus malades de surcroît par leur travail en raison de l'environnement de bruit, de poussière, mais aussi d'utilisation de produits chimiques, sans que des dispositions vraiment contraignantes ne viennent les protéger. Mais il n'y a pas que ça. La globalisation enveloppe l'Afrique non seulement par les industries extractives, mais aussi par l'agrobusiness sur des terres accaparées. Mais des terres sur lesquelles l'utilisation des pesticides présente un fort potentiel de risque, aussi bien pour l'environnement que pour les travailleurs. Finalement, la faiblesse des lois qui protègent les travailleurs encourage des entreprises de pays dits développés qui avaient une culture de la réglementation à un laxisme. La faiblesse ou le caractère peu contraignant de la réglementation les conduit à minimiser le coût de la prévention des risques professionnels dans les pays dans lesquels elle s'implante. L'une des stratégies des États pour attirer les investissements directs étrangers consiste justement à faire en sorte que la liste des maladies professionnelles ne se rallonge pas. Même pour les maladies listées, les mécanismes de monitoring, c'est-à-dire de collecte, de traitement des données sur les risques professionnels, ne sont guère mis en place. Et lorsqu'il en existe, ils ne disposent guère de moyens de fonctionnement et de ce fait sont totalement inopérants. Alors, même lorsque certaines entreprises, certaines multinationales, affichent une volonté de respect de la procédure, la flexibilité des États sur ces questions les amène à choisir la solution, la voie la plus courte, qui est celle de consacrer peu de ressources à la protection. Dans la dynamique donc de la mondialisation enveloppant les États, l'un des traits caractéristiques des États et multinationales demeure la faible marge de manœuvre laissée par les seconds, c'est-à-dire les multinationales, aux premiers, c'est-à-dire les États, en matière de négociation sur les politiques sociales. La marge est hyper faible. Les industries extractives et l'agrobusiness en tirent un grand bénéfice. Ils exploitent de ce fait la hiérarchie des échelles de pression en faveur des choix du court terme. Car ces États, sous la pression politique du chômage, des franges importantes de leur population, mais aussi du besoin de ressources financières, font souvent le difficile arbitrage en faveur du court terme, à savoir rendre la réglementation moins contraignante pour ne pas décourager les investissements. Il n'y a rien de plus pernicieux que cela. Finalement, entre le besoin de mise en place d'une réglementation protectrice des travailleurs et le risque de cette dernière présente l'inconvénient de rendre le système économique moins attractif pour les IDE, les États font le choix de la protection minimale. Dans certains pays, le retard dans la mise à jour de la réglementation du travail ou l'observance d'une extrême prudence dans la mise en œuvre des mécanismes de leur contrôle lorsqu'il en existe devient un choix politique stratégique et implicite. Et à travers un tel arbitrage en faveur du court terme, l'on peut lire la conséquence du jeu des pouvoirs asymétriques entre les capitaux et les États faibles. L'absence de protection par le haut, donc par ricochet, s'encapsule également dans le choix des travailleurs par le bas. Et comment ? Si les difficultés des États à réglementer est connue, la violence qu'organise le marché du travail, particulièrement dans les secteurs des industries extractives, l'agrobusiness, traduit une certaine absence d'alternative pour les travailleurs. Dans ces pays, les travailleurs sont souvent tiraillés entre, d'un côté, la hantise de la rareté des opportunités d'emploi ou encore la peur de basculer durablement dans le chômage et, de l'autre, l'acceptation d'un emploi qu'ils savent eux-mêmes être un emploi à risque sanitaire, mais dont les effets ne se révéleront que bien plus tard. La difficile équation du chômage-emploi à risque fait souvent opter les travailleurs pour l'emploi à court terme et la minimisation des risques sanitaires qui leur sont associés. Malgré la conscience des risques liés à ces activités professionnelles, les travailleurs font le choix de la survie économique à court terme en accédant à des emplois dont les risques ne se dévoileront que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard et s'en remettent tout simplement à Dieu pour le reste. À travers un tel choix, ces travailleurs s'exposent à une double perte. D'une part, Les revenus souvent faibles tirés de ces activités sans qualification, couvrant à peine leurs besoins sociaux de base, qui font d'eux des travailleurs pauvres, et d'autre part, sur le long terme, leur capital santé qui s'en trouve hypothéqué. Les données manquent, justement, pour l'instant, pour documenter cette réalité qui est pourtant celle de bon nombre de pays au sud du Sahara. La question de l'accroissement des risques, souvent occultée par l'absence des données, est encore rendue plus complexe par les contextes de crise, habituellement défavorables à la défense organisée de l'intérêt des travailleurs. Dans les pays pauvres, cette situation se nourrit de silences complices et sous contrainte des États, et le plus souvent du consentement tout autant sous contrainte des travailleurs. Pour conclure, je dirais que cette tribune m'aura permis de montrer que face à la mondialisation, l'inégalité des civilisations se mesure à l'aune des moyens humains qu'elles peuvent investir dans la bataille, parce que c'est une arène. Tous les discours sur la mondialisation humanisante qu'appelle mon collègue, ou l'altruisme qu'appelle le professeur Diomoulé, je partage l'idée, mais le regard du sociologue ne voit pas poindre cet idéal. C'est pas complètement partagé, ça ne reste qu'un discours. Les chances d'exister dans un tel monde de compétition dépendent, plus que par le passé, des ressources humaines que chacune des civilisations, chacun des pays, investit dans l'âpre compétition au cœur des échanges et du jeu de redistribution des cartes qu'organise discrètement la globalisation. Or, dans ces échanges internationaux, malgré ses atouts démographiques et vu l'importance croissante qu'il prend aux yeux des pôles économiques majeurs, au point même de tromper ce continent sur ce qu'il est vraiment, aux yeux de ce qu'il devient, au vu de ce qu'il devient aux yeux des pôles économiques que sont l'Europe, depuis peu l'Asie et l'Amérique latine, je pense au Brésil, le continent africain donne plutôt l'impression de subir la mondialisation qu'il n'atteste d'une réelle capacité de choix. Et je pense, et ça va être mon mot de fin, que c'est dans la prise de conscience des enjeux géopolitiques du capital humain que l'avenir de l'Afrique va se dessiner. Je vous remercie. Merci.